Bonjour et bienvenue au coin de la table, le podcast qui démonte les jeux. C'est donc Pascal, moi-même et Aurélien.
Moi-même.
Voilà. Donc nous sommes dès l'avant-dernier
Au
épisode,
pénultième.
le penultième épisode du podcast,
Eh oui.
parce que Aurélien et moi allons prendre des chemins divergents. Enfin,
Vergent? Non,
ouais,
j'ai pas
bon,
vraiment
bref.
fait cette blague.
Voilà. Et du coup, c'est aussi la deuxième partie de notre podcast sur le jeu vidéo est-il un objet culturel? Le jeu est-il un objet, le plateau est-il un objet
Alors nous
culturel?
avons donc
Pardon.
le spoiler de Pascal qui introduit une partie des choses dont on voulait vous parler aujourd'hui.
Voilà. Deuxième partie avant le dernier épisode.
Voilà, qui est le dernier épisode dont on ne vous dévoile pas encore le thème, mais je pense que les plus perspicaces d'entre vous auront peut-être une petite idée si vous êtes au courant de ce qui se passe dans nos esprits un peu malades.
Complètement. Donc, eh bien Aurélien, par quoi allons-nous commencer?
Eh ben, donc par rapport à la dernière fois, on avait parlé de le jeu est-il un objet culturel sous la forme plutôt orientée vraiment objet en tant que tel. Cette fois, on a choisi de se pencher un peu plus sur la notion de reconnaissance. Donc au final, on est d'accord que on peut grossièrement, on va être un peu dans les grands traits dans un premier temps, on est d'accord que on peut considérer qu'il y a deux typologies de public de joueurs en fait, qui sont justement les joueurs, c'est-à-dire ceux qui se revendiquent comme étant des pratiquants d'objets ludiques, donc quel qu'il soit, un jeu vidéo, jeu de cartes, jeu traditionnel, etc., qui vont assumer le fait d'avoir une pratique ludique conséquente, alors conséquente étant quelque chose d'assez vaste, hein, bien sûr, l'idée c'est pas de se mesurer au temps, et ce qu'on appellera encore une fois à grands traits le grand public, c'est-à-dire des gens qui vont pas nécessairement se définir en tant que joueurs, et en tout cas assumer et revendiquer une pratique ludique véritable, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas, clairement. Et on a choisi de se focaliser peut-être sur peut-être l'entre ces deux mondes, et peut-être en allant plutôt du côté du grand public, parce qu'on considère que par rapport à notre définition, une définition qu'on avait citée la dernière fois.
La définition de la culture, qui est qu'on définit comme culture un groupement de personnes qui sont liées par des pratiques, des croyances, des pratiques donc artistiques, des pratiques culinaires quotidiennes, qui font que bah voilà, ils sont reconnaissables, ils se reconnaissent les uns les autres.
Voilà, donc on considère que peut-être aller mettre notre champ d'étude dans le domaine des joueurs par rapport à cette notion, c'est un peu un tautologisme, et donc c'est pas forcément le plus intéressant. Et donc la notion qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la notion vraiment de champ de reconnaissance. Alors on a identifié deux espèces de grands champs de reconnaissance, donc qui vont être liés à qu'on va essayer de rattacher à la notion de grand nombre avec des grands guillemets et au long du podcast, que sont la reconnaissance sociale, donc au sein spécifiquement alors de la France, peut-être franco-belgique fortiori, mais voilà, on va pas forcément considérer que ce qu'on va dire est propre, est universel, ça serait très
Déjà, parce que voilà, on
présomptueux.
se base sur ce qu'on observe un petit peu au quotidien, tous les deux, et sur ce qu'on a un petit peu étudié, mais c'est vrai que c'est difficile de se faire une idée dès qu'on sort bah, justement de notre culture francophone, quoi.
Tout à fait. Et la deuxième notion qu'on va aborder, c'est la notion de reconnaissance institutionnelle. On a deux, trois petites choses à vous dire à ce niveau-là. Donc au niveau du social, nous, notre postulat, pour répondre à cette question de le jeu est-il un objet culturel, c'est qu'on se dit qu'il y a certaines typologies de jeux qu'on trouvait particulièrement intéressantes, que sont des jeux qui ont certaines... peut-être une certaine noblesse, certains titres de noblesse, donc qui vont être des jeux qui vont être reconnus.
Ouais. Bah déjà, il y a un peu une forme de noblesse à l'ancienneté, hein, avec tous les jeux. On en avait un petit peu parlé la dernière fois avec les échecs, avec peut-être les dames, le go, enfin, tous ces jeux un peu traditionnels, etc. Que moi j'ai remarqué aussi avec ces jeux-là, c'est que c'est des jeux qui ont un côté abstrait. C'est-à-dire que les pions sont synthétiques, on raconte pas vraiment une histoire, il n'y a pas de personnages, pas sur des schémas colorés, enfin voilà, à part le noir et le blanc, hein, que ce soit le go, les dames, les échecs, voilà, on est purement la voilée, on est au, ah, il y a des pions noirs et blancs ou juste blancs, je sais plus.
Il y a des pions noirs et blancs, me
Voilà.
semble-t-il.
Ah, donc il y a forcément cette espèce de dichotomie,
Non, même pas en
ah
fait. Non,
si.
non, je dis des
Ah,
bêtises. Non,
voilà.
pardon, pardon.
Le backgammon aussi pareil, c'est enfin le backgammon c'est pareil, il y a deux couleurs. On est souvent dans des jeux en duel, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. On pensait aussi à des jeux de cartes traditionnels comme le bridge, par exemple, qui a finalement une certaine aura de noblesse, en tout cas de grands jeux quelque part. Donc,
Tu disais même que c'est peut-être même l'un des rares jeux, enfin peut-être même le seul jeu de cartes, avec le jeu de cartes tel qu'on connaît nous, à avoir ce statut-là. Quand on regarde les autres jeux de cartes, on soit un côté très populaire qui se joue à la table du café ou au lycée ou des trucs comme ça, soit un côté un peu jeu d'argent justement qui peut avoir eu cette espèce de aura de c'est pas super parce que voilà ça a pas toujours été reconnu ça.
Je pense qu'on peut étendre peut-être à des jeux comme le Rami, par exemple, qui sont aussi très pratiqués, qui ont peut-être une certaine noblesse, mais c'est vrai que côté bridge, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est finalement un côté un peu au standing qui peut y avoir, c'est-à-dire que tous les objets qui vont avoir lieu au trait du qui vont avoir le trait au bridge, finalement, tout ce qui est livre d'apprentissage ou quoi, vont avoir des prix assez élevés, donc une accessibilité pas énorme. Les clubs sont pas forcément donnés. Enfin voilà, on a quand même un biais social, je pense, en tout cas un parti pris qui est assez fort.
Alors ce qui est assez marrant parce que du coup par exemple les échecs à l'inverse un petit peu cette notion d'accessibilité les livres de stratégie d'échecs ouais doivent être super chers aussi je me suis pas penché sur la question mais dans les écoles il y a souvent un club d'échecs enfin toi tu m'avais parlé que les dernières fois tu m'as dit que tu faisais partie d'un club d'échecs.
Oui, ouais, dans le sud-est, en fait, à Montpellier, il y a une grande. En tout cas, il y avait, quand j'y habitais, il y a quand même un certain nombre de décennies, une grande tradition des échecs, et il y avait beaucoup de clubs d'échecs un peu partout dans les écoles, effectivement.
Ouais. Je sais qu'en Île-de-France, il y en a aussi quelques-uns. Enfin, j'en ai des souvenirs. Je sais que c'est un jeu dont tous les enfants, à un moment, ils touchent au moins une fois.
Ben,
Peut-être,
possiblement,
bon,
ouais.
je fais une grosse généralité, je ne devrais pas. Mais je pense que tout le monde reconnaît un échiquier de loin.
En tout cas, il y a une sorte de patrimoine, c'est-à-dire que la notion de titre de noblesse dont on parlait un petit peu et d'objet culturel, je pense qu'on peut considérer sans forcément trop prendre de risques que le jeu d'échecs, c'est un objet culturel au sens propre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une culture de la connaissance des échecs, il va y aussi y avoir des biais sociaux, hein, d'ailleurs, des échecs, puisque je pense que les échecs ne sont pas forcément un jeu qui va être pratiqué dans tout cadre et milieu sociaux. Ça, j'ai pas du tout de chiffres ou quoi,
Ouais.
mais
Ah,
une
complètement.
hypothèse.
Il y avait ce côté où je suis en train de repenser à Kasparov et Deep Blue, et que justement les échecs avaient été considérés comme une échelle de mesure de l'intelligence artificielle pour établir son côté noble. Voilà. Maintenant, on est passé à l'étape suivante. C'est l'ordinateur qui arrive à gagner au Go qui fait la une parce que c'est encore plus compliqué vu que c'est un jeu qui est un peu moins. Un peu plus flou, quoi.
Et
Une
tout à
logique un
fait.
peu plus floue.
Oui, c'est vrai que les échecs, finalement, Deep Blue de IBM, hein, pour le coup, a réussi à battre Kasparov à la fin du XXe siècle. C'est vrai que le Go, on a quand même attendu 20 ans, quasiment 20 ans supplémentaires, quoi.
Exactement.
Et effectivement,
Je me
cette
demande
bon.
s'il n'y a même pas vraiment 20 ans, parce que c'était pas vers 95, voire les années 80, fin des années 80,
Non,
ou
de
début
mémoire, c'était
90.
vers 98. Je suis pas complètement
D'accord,
sûr
ok.
de moi, mais il me semble avoir suivi ça. Je sais que j'ai suivi ça quand j'étais gamin,
C'est
donc.
98, ça fait ouais, quasiment 20 ans, parce que l'ordinateur qui est venu au Go, c'est l'année dernière, il me semble.
C'était l'année dernière, ouais,
Ouais.
c'est ça. Voire il y a 2 ans d'ailleurs, le temps passe assez vite. Mais effectivement, c'est vrai que voilà, pour répondre à cette première problématique, voilà, je pense qu'il y a un côté, on va considérer que on va jouer un objet culturel un peu noble, un peu ancré dans une civilisation, ancré dans un contexte social, quand on va jouer à ces jeux principalement abstraits. Donc on observe, hein, le côté jeu abstrait là-dessus. Et au contraire, peut-être en opposition, il y a une deuxième chose qu'on a observée, c'est que le jeu peut être considéré, je pense, reconnu en tout cas, comme objet culturel dans la sphère, tout simplement, on va enfoncer des portes ouvertes, mais de l'enfance. C'est-à-dire que on joue à des jeux et c'est ok de jouer à des jeux et c'est reconnu comme tel quand on est un enfant et ensuite quand on joue avec des enfants. Puis il y a ce côté vraiment ancré de se dire que bah la dans notre culture, en tout cas francophone générale, hein, encore une fois c'est des cas précis, le fait de jouer au Monopoly, au Double, tous ces grands classiques en tout cas. D'ailleurs on va enchaîner sur les chiffres des ventes juste après qui sont assez intéressants. C'est quelque chose qui est reconnu, il y a un objet culturel. Enfin, clairement, à l'heure actuelle, tous les enfants avec lesquels je peux travailler, il y en a quand même pas mal, ont déjà joué au moins une fois au Monopoly. J'ai encore très rarement vu d'exception.
On parlait de famille à un moment, et je pense que effectivement la cellule familiale, j'ai envie de dire nucléaire, tout ça, c'est un peu le vecteur de la transmission du jeu aussi. Enfin, en tout cas, de ce genre de jeu, du Monopoly. La plupart des gens avec qui j'ai parlé m'ont dit, ah, oh, bah, moi, je jouais, avec mes parents, mes grands-parents. T'as ce côté de transmission et de transformation du jeu qui passe par ça, je pense.
Ouais, je pense que ça doit contribuer. Il y a effectivement une transmission, comme nous d'ailleurs, on a cette culture de la transmission orale, de la règle du jeu finalement, qui est qu'on préfère toujours au meilleur des cas avoir un animateur ou quelqu'un qui nous explique les règles.
Ce qui est un peu amusant, c'est que du côté du grand public, du coup, avec le jeu de société, les parents introduisent les enfants aux jeux de société auxquels ils ont joué, le Cluedo, le Monopoly, enfin, les classiques entre guillemets. Ces enfants, entre guillemets, pour le grand public, caricaturalement, arrêtent de jouer, genre, je sais pas, à l'adolescence ou à peu près plus tard, sauf certains grands fous qui continuent de le faire, jouent à des jeux comme Risk ou des trucs encore pires que ça. mais que ils arrêtent. Et après, ces gens-là ont des enfants. Ils rachètent des jeux de société pour retrouver, pour que leurs enfants retrouvent ce qu'ils avaient avec leurs parents.
Oui, et puis finalement il y a des jeux qui s'héritent aussi, je pense, hein. Je pense que les justement tous ces exemples de jeux, alors tu parlais tout à l'heure en off de tout ce qui était un des premiers booms du jeu de société dans les années 50 finalement avec la sortie des Monopoly, non pas Monopoly, c'était avant, pardon, Risk, Diplomatie, Cluedo qui a pas trop tardé après, etc. Et qui finalement sont des jeux qui correspondent à peut-être une consommation culturelle beaucoup plus importante, un changement de pratique, et qui ensuite
Là, je pense qu'il y a vraiment à voir avec le baby boom, les 30 glorieuses en France et des trucs comme ça. Aux États-Unis, c'est bon, on parlait surtout de la France, mais c'est vrai que moi, je sais pas, c'est parce que je regarde Mad Men en ce moment, mais il y a ce côté années 50 avec où tout le monde se réunit autour de là avec ce qu'on appelle la famille nucléaire vient de là, même si c'est pas lié avec le nucléaire, mais ce côté de l'unité familiale comme ça, papa, maman et les enfants, et justement ce côté où il y a une explosion du marché du jouet hein, aussi à l'époque, je me souviens bien, parce que justement les parents qui ont connu la guerre veulent que leurs enfants s'amusent. Voilà. Et du coup, ça a donné une génération de... On ne dira rien.
Deux joueurs.
De
Deux
joueurs et
joueurs.
d'autres, je parle d'autres choses.
Mais oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ce côté tradition, ce côté on retourne sur des classiques. On est tombé en préparation du podcast sur un article qui a été posté donc sur le site de Gus Co, qui justement retraçait le top 5 des ventes de jeux de société sur Amazon UK. Donc là, on parle des UK, c'est marrant, on vous dit qu'on reste en France et on arrête pas de partir ailleurs. C'est formidable.
En même temps, on n'arrive pas forcément à trouver les bons chiffres.
C'est ça.
Mais bon.
Et donc effectivement, alors je vous avouerai que malheureusement, j'ai pas retenu le numéro 5. C'est-à-dire que ça commence très bien. On
Il
va
me semble que c'était
commencer.
un truc complètement obscur qu'on n'avait jamais entendu parler tous les deux. Un
Oui,
truc
c'est
vraiment
ça.
purement, purement UK.
C'est ça. Le numéro 5 et le
Ça
numéro
ressemble.
1, on les connaît pas en fait.
C'était pas un truc qui s'appelait Articulate, ça sent le gros jeu d'apéro.
C'est possible. Oui, c'est possible, ouais. Et le numéro 1, c'était un jeu d'association d'idées pour trouver des mots des autres personnes. Donc on
Encore un jeu
est.
d'apéro ou un truc façon Codename peut-être?
Ah non, 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 c'était un truc avec une roue, juste on avait des mots et il fallait trouver les autres mots, donc c'était vraiment un jeu effectivement qu'on connaissait pas, donc c'était assez surprenant, mais assez classique en tout cas dans son approche. Voilà, on n'est pas sur des jeux qui ont bien marché dans notre sphère de joueurs et qui sont top 5 des ventes sur Philibert, quoi. C'est pas King Domino, c'est pas Unlock, c'est pas tout ça. Et donc effectivement, le top, donc on parle de reste du top, le numéro 4, c'est le Monopoly Ultra Bank. Donc c'est une version un peu en noir bling bling avec un dispositif de carte bancaire. Donc c'est un peu la version de luxe contemporaine moderne.
Voilà.
Le numéro 3.
Le numéro 3, c'est le Monopoly classique, il me
Non,
semble.
raté,
Non?
c'est le
Ah, c'était le
Monopoly Trône de Fer.
Game of Thrones, ouais.
Voilà.
Ah, merde.
Parce que le Monopoly classique, lui, il est numéro
Et
2.
voilà.
Voilà.
Et moi, c'est un truc que je trouve vachement intéressant, parce que c'est quelque chose dont on avait discuté un peu plus tôt, hors podcast, mais que globalement, pour ce genre de jeu, qui sont l'espèce de survie de ce genre de jeu, tient à trois points qui sont représentés là, qui est de 1, jouer sur la nostalgie et vendre une version classique du jeu, 2, faire des versions mises à jour hein, qui vont attrayer justement des joueurs qui ont joué, qui disent oh le Monopoly je le connais par cœur, j'ai envie de changer un petit peu, et 3, se baser sur des licences. Et donc faire appel à la collectionnite des gens ou au fanboyisme de base en faisant des versions Monopoly. Alors, je sais pas, Monopoly, je pense qu'il y en a à peu près pour tout et n'importe quoi.
Ah oui.
Star Wars, Pokémon, Zelda, qu'est-ce qu'on peut... Star Trek, c'est sûr, il y en a. Bref.
On avait été contacté par une association avec laquelle je bossais a été contactée pour faire un Monopoly thématique sur le campus de son association à Brasbrook, essayer de faire d'autres versions du
Je
Monopoly
pense que
tout le temps.
pas mal de gens ont commencé peut-être par faire des versions custom de Monopoly. J'ai le souvenir que mon père en avait fait une sur la paléontologie.
Ah, très bien.
Voilà.
Ben, en fait, c'est intéressant parce que moi, pour prendre un peu mon activité pro, je sais même pas si c'est très clair, hein. Moi, donc, j'anime des ateliers de création de jeux de société, entre autres. Donc, je gère une boîte qui s'appelle Prismatique, mais bon, voilà, c'est hors podcast, mais là, j'en parle parce que, pour le coup, quand j'anime des ateliers auprès d'enfants de création de jeux de société, donc on a toute une méthode, découverte des mécanismes, etc., machin, mais assez fréquemment, finalement, on a un appel du Monopoly qui arrive,
Ouais.
où c'est souvent avec des enfants qui n'ont pas forcément l'opportunité de tester beaucoup d'autres jeux qu'on appellerait nous modernes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est juste comme ça, mais c'est vrai que ce qui va parler, c'est Monopoly et Double aussi, qui marchent vraiment très très bien. Mais typiquement, il y a quand même aussi les Uno, Puissance 4, tous ces grands classiques, mais il y a une envie finalement assez forte de revenir sur l'appel du Monopoly, donc faire des plateaux carrés, avec un centre vide, dans lequel on va avoir des billets, acheter des choses. Il y a ce côté un peu peut-être
J'ai presque même
mimétisme.
envie de dire, il y a presque, j'irais même plus vers la bonne paix, tu vois, comme exemple que le Monopoly.
Oui.
Du coup, puisque j'ai travaillé avec toi sur ces ateliers, et il y a un peu ce côté, souvent t'as quand même une case début, une case fin.
Oui,
Alors que Monopoly, tu tournes en
c'est
rond,
vrai, c'est vrai.
et
Mais je crois que la bonne paye, tu tournes en rond aussi.
effectivement, ouais, tu tournes en rond. Merde, alors à quoi je
Mais
pense?
par contre, la bonne paye, il y a un côté jour de, enfin, il y a quand même un déroulement d'un mois, c'est-à-dire que
Ouais.
tu t'avances dans le mois et à la fin, tu as un truc jour de paye.
Ouais. Y a pas un truc genre tu fais que deux tours ou je sais pas quoi. Bref.
Non, je crois pas pour le coup.
D'accord. Et il y a ce côté, ouais, avec les cartes. Enfin, je sais pas si tu entends parler, mais moi j'en ai beaucoup entendu, les cartes pièges qui
Oui,
bloquent les joueurs pendant deux tours.
les cartes chance, les choses comme
Voilà.
ça, quoi. Donc on est sur là j'ai ressorti aussi un site, donc un site qu'on avait vu avant, qui donc est une étude du panéliste NPD qui dévoilait le top 10 des ventes des jeux de société depuis début 2017. Donc c'est un article qui date de fin 2017, donc est quand même voilà assez récent. Donc on va trouver des choses assez intéressantes, d'autres un peu surprenantes. Donc dans le top 10, hein, je vais pas tous vous les faire, mais le numéro 1 c'est le Rubik's Cube, donc ça c'est assez intéressant. Le numéro 4 c'est Double, donc pour le coup qui fait quand même bien son entrée, et le numéro 2 effectivement c'est la bonne paye. Donc dans ce top 10 des ventes des jeux et des jouets, selon NPD, on a la bonne paye en numéro 2, ensuite on a Docteur Maboul, Puissance 4 en numéro 5, Monopoly Junior en numéro 6. Donc ce côté, en tout cas au niveau consommation, au niveau habitude de la consommation et peut-être culture commune, on est sur quelque chose qui est bien bien avéré, quoi. Ensuite, ça c'était pour l'aspect peut-être reconnaissance sociale, donc avec cette opposition entre noblesse, abstraction et enfance. Et donc ce qui nous intéresse, c'est de se dire que bah c'est ok de jouer quand on, enfin, encore une fois, on tire à gros traits, mais c'est ok de jouer quand on joue à des jeux qui ont une légitimité, une reconnaissance sociale, qui sont acceptés comme étant nobles, ou alors quand on joue à des jeux qui sont acceptés comme étant de la sphère de l'enfance et de la tradition, mais dans ce cas-là, il vaut mieux qu'il y ait un ou deux enfants dans la boucle pour pas passer pour des
Voilà.
losers, quoi.
Après,
J'exagère.
t'as un peu ce côté où des fois les gens ne se considèrent pas comme joueurs parce que ils jouent soit ils disent oh bah je joue que de temps en temps ou alors bah je joue qu'avec mes enfants justement
C'est ça.
ou alors ils ont pas l'impression de jouer parce que l'objet qu'ils ont devant eux ils le considèrent pas vraiment comme un jeu. C'est quelque chose qui est plus facile à identifier dans le jeu vidéo, notamment avec Candy Crush où sur toutes les personnes interrogées les gens te disent non, je joue pas aux jeux vidéo, et quand tu leur poses la question, est-ce que vous jouez à Candy Crush, ils disent oui tous les jours en allant et en partant du boulot. Et au final, ils cumulent quand même, si tu penses un temps de trajet moyen d'une heure, tu cumules 2 heures de jeu par jour, c'est pas rien, mine de rien.
Eh non. Non, mais oui, c'est considéré comme étant, c'est pas vraiment du jeu, parce qu'on sort en fait de ces deux grandes sphères que serait la noblesse
Voilà.
et
Parce que
l'enfance.
l'objet, ouais, et puis aussi l'objet en lui-même ne correspond pas à l'idée que les gens se font d'un jeu.
Oui, c'est vrai.
Il y a de ça, et il y a ce côté aussi.
Technique, non?
Oui, enfin voilà, ils reconnaissent pas un jeu parce que ça ressemble pas techniquement à un jeu. Les gens qui souvent zappent par rapport aux jeux vidéo, les gens imaginent déjà une pratique régulière chez soi. Donc effectivement, ce côté technique sur une machine qui est installée, sur une télévision, un écran d'ordinateur. Il y a ce côté aussi où un jeu vidéo, ça va être peut-être avec un personnage, avec une histoire, que ça va être des règles compliquées. Ah, c'est souvent un truc. Y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui, ou d'adultes en tout cas, qui se réfrènent un petit peu. Je sais pas si tu l'as entendu ça, mais moi, quand au début, quand j'essaie, là, j'essaie de même mettre ma mère au jeu de plateau, et souvent le truc, c'est, oh, c'est un peu compliqué tes trucs là. Et puis
Oui.
voilà.
Oui, et puis c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au niveau justement, il y a un enjeu qui est très intéressant, c'est l'enjeu de la médiation. La médiation du jeu comme étant justement un objet culturel connu et reconnu. Donc là, on a un certain nombre d'exemples intéressants. Le premier, c'est notamment tout ce qui est ludothèque. Et on pensait notamment au CNJ, donc le Centre National du Jeu. Donc si vous nous écoutez, l'équipe du CNJ, Alexia, Erwan, on vous dit coucou.
Salut, salut.
Et donc effectivement, dans les statuts de l'association, finalement, les statuts principaux, c'est vraiment reconnaître et légitimer le jeu comme objet culturel. Donc c'est très clair.
Voilà, donc on est d'accord, on vous aime beaucoup.
Voilà, et donc il y a cette notion de médiation, où peut-être c'est un univers qui est à faire découvrir, où un certain nombre de jeux, donc que nous on appellera jeux modernes, contemporains, ou peu importe comment on les appelle, mais bon, vous voyez très bien de quel genre de jeu je parle, voilà, Top Vent de Philibert, etc., qui demandent en fait d'être présents dans des espaces culturels. Donc c'est pour ça qu'il y a des médiathèques aussi, comme à la médiathèque Louise Michel, pour pas la nommer, salut Louise Michel, qui font ce genre de choses en proposant des jeux, en proposant de la médiation et de l'animation autour du jeu, et qui permettent de dire, ben voilà, le jeu finalement c'est pas plus ou moins culturel que ne l'est un livre, que ne l'est un film, que ne l'est une sculpture, c'est juste un objet en tant que tel. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un gap de part, je sais pas, soit les biais millénaires de la pratique du jeu, soit de la nouveauté des jeux modernes, ou je sais rien, qui fait que ce gap est pas encore en train d'essayer d'être franchi, quoi. C'est un
Pas
combat.
encore complètement. Je pense que c'est une dichotomie qu'on retrouve de toute façon dans la plupart des milieux culturels, qui est ce côté où quand tu dis que tu regardes des films de Stanley Kubrick, les gens hochent de la tête avec un air entendu, et que quand tu dis que tu regardes Pacific Rim, les gens te regardent plus.
Ouais, là le contre sous-culture, culture populaire, tous ces trucs un peu
Voilà, et
anxiogènes finalement.
pareil, hein, là, ce que c'est. Je pense que la musique, c'est un milieu où c'est encore plus spécial, par exemple, où de toute façon, les genres de musique qui sont décriés finissent par devenir la norme.
Oui.
Au fur et à mesure que les gens qui ont connu cette époque transformative où un nouveau genre apparaît, deviennent les personnes au pouvoir ou deviennent des vieux,
Ouais.
pour le dire méchamment. Nous parlerons donc du jazz, nous parlerons
Bah, du
peut-être
rock,
du
hein,
rock, hein,
tout ça, bien
complètement.
sûr.
Voilà, l'acceptation par l'ancienneté.
Nous parlerons de la dubstep, mais on n'est pas encore prêt.
Pitié, non. Voilà,
Moi, j'aime bien la dubstep.
non, ben, ouais, pareil, un
Je
petit
me
peu,
sens
mais
jugé.
mais c'est juste que ça va faire mal le moment où voilà, où on sera vieux parce qu'on aura accepté ça et que
Mais
voilà.
je pense que pour le coup c'est intéressant parce bon ok là on va faire un petit aparté mais on va reparler de jeu, c'est intéressant. Justement dans Street Fighter V, alors je vous avais dit ça a l'air spécifique, hein, on a été beaucoup sur enfin moi j'étais beaucoup surpris et je pense qu'Internet aussi quand Akuma, qui est un des personnages assez classiques de Street Fighter, hein, finalement il est là depuis un certain nombre de jeux et il est très caractéristique,
Depuis
hein,
Street Fighter Alpha, exactement.
il était dans l'alpha Akuma?
Ouais.
Ah ouais,
Il est apparu
d'accord.
dans Alpha avant d'être dans la série.
Ah d'accord, ah oui, d'accord, ok, bah très bien. Et donc typiquement là son nouveau thème, vous savez, il a des thèmes musicaux assez caractéristiques à chaque fois, avec des instruments très japonisants, des flûtes, des choses comme ça. Et là en fait ils ont fait un thème avec de la dubstep dedans. Et donc on s'est dit mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que la dubstep c'est devenu, je pense, une musique assez spécifique au milieu du jeu vidéo en fait, pour les trailers d'action, pour certains thèmes, et c'est devenu une sorte de canon. Alors c'est assez intéressant. Bon, on s'écarte un peu, hein, je pense, mais
Ouais.
voilà. Parler de dubstep, check.
Donc, ouais, on va revenir un petit peu sur ce côté acceptation ou pas, surtout cette espèce de dichotomie noblesse, popularité.
Ouais.
Il y a ce côté, c'est quelque chose qu'on retrouve au sein même de la culture des joueurs, avec l'opposition Eurotrash Améritrash.
Oui.
Ce côté, d'un côté, il y a des gens, et c'est marrant parce que c'est toujours les mêmes qui gueulent, j'ai envie de dire. Hein, c'est même que le même que chez les jeux de rôle entre narrativistes et simulationnistes. C'est le côté, les gens qui veulent pousser des trucs et faire des calculs. Voilà, donc un peu Eurotrash, les cubes en bois. les gens qui, de l'autre côté, entre guillemets, veulent s'amuser.
Ouais.
Et c'est presque une opposition qui marche, quoi.
C'est ça, mais c'est des gros guillemets, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui cherchent les deux, et qu'il y a peut-être des espèces de guerres de chapelle.
Exactement.
Bon.
Voilà, et puis, comme tu m'as dit, des jeux comme Sight, qui ont un petit peu le côté, qui sont un peu le cul entre deux chaises, fonctionnent très très bien, parce que justement, ils peuvent rapprocher peut-être ces deux publics. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est un peu à la fois aussi la faute, mais pas la faute aux éditeurs, parce que les éditeurs veulent survivre, les éditeurs veulent gagner de l'argent pour survivre, pour continuer d'exister, et que du coup, ben ils ciblent à mort.
Oui, ça fait partie du travail, hein, clairement.
Exactement, clairement, et moi je me rappelle être allé en voir avec un prototype, et que la critique qui revenait, c'était « on sait pas si votre jeu il est familial ou expert ».
Eh oui. Oui.
Et du coup c'était un peu problématique parce que notre jeu on disait en même temps c'est bien un jeu qui soit abordable pour toute la famille mais qui suit une profondeur pour que des gens qui veulent se tirer la bourre se tirent la bourre à mort.
Mais c'est vrai que pour le coup il y a aussi cette notion de ciblage dont tu parles qui est très importante parce que c'est vrai que quand on conçoit quand on est dans une approche de création d'un produit, donc surtout quand on est dans un produit commercial type édition, on essaye vraiment de cibler un public qui permette qui soit content vraiment, qu'il y ait une expérience optimale par rapport au jeu et qui justement évite ce côté le cul entre deux chaises et il y a cette espèce d'entre-deux à trouver qui parfois est effectivement pas très confortable.
Un déséquilibre, voilà, un déséquilibre net qui parfois je pense qu'il y a des jeux je dirais pas qu'ils l'assument mais qu'on bon alors là c'est justement c'est plutôt des jeux à méritrage mais t'as souvent ce côté alors voici les règles pour jouer normal et voici les règles pour jouer vénère.
Alors moi je repense à Dune, donc Dune sorti en 95, me semble-t-il, enfin qui a eu l'As d'Or en 95, qui d'ailleurs a été mécaniquement repris avec Twilight Imperium, que je n'ai pas encore essayé. Et donc pour le coup, Dune c'était intéressant parce que livret de règles de 14 pages à 4 incluait des règles standard, des règles optionnelles et des règles experts. Il y avait les trois en fait, il y en avait pour tous les goûts, en sachant que les règles standard, ça nous a pris 1h30 pour les lire et les décoder déjà, donc c'est assez intéressant. Ça restait une très belle expérience de jeu, hein, mais c'est vrai que c'était assez chouette de voir.
Je pense que ouais, dans les années 90, on était encore un peu sur l'expérimental de tiens, on va faire des plus gros jeux. Le risque, c'était sympa 5 minutes, mais maintenant on va faire un truc vénère. Mais
c'est
du coup, ils n'avaient pas encore non plus le savoir de comment écrire des règles qui soient claires et nettes. Je pense que beaucoup venaient du jeu de rôle, ces gens-là, et voulaient une expérience de jeu de rôle sur un plateau.
Diplomatie s'en sortait quand même très très bien. Ouais. Enfin, il est sorti la même année Chris, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, mais il s'en sortait bien sur le côté gros jeu, avec de la profondeur et de la simplicité en même temps, quoi.
Bah écoute, j'ai jamais joué.
si t'as l'occasion, c'est un jeu qui assume d'ailleurs son côté.
C'est assez marrant, parce que du coup, tu vois, c'est Diplomatie, c'est l'un des rares jeux dont j'entends encore parler, et où les gens m'en parlent avec des étoiles dans les yeux.
Oui.
Voilà. Pour un vieux jeu, c'est ouf quoi.
Diplomatie c'est vraiment un très bon jeu. Diplomatie c'est un jeu qui assume vraiment son côté gros jeu dans le sens avec sans hasard. Dans la règle du jeu, il y a écrit texto, choisissez votre faction initiale, cet élément est le seul élément de hasard présent dans tout le jeu. c'est assumé comme tel quoi. Et donc on avait un deuxième champ duquel on voulait vous parler, qui était le champ institutionnel. Donc ce champ-là, finalement, c'est la reconnaissance du jeu comme objet culturel par un grand nombre qui est représenté finalement par une structure qui soit ici un gouvernement, un État ou d'autres sous-structures. Donc on parlait tout à l'heure justement du CNJ, voilà, le Centre National du Jeu, donc qui est une association qui a quand même une certaine aura, une certaine reconnaissance, une certaine légitimité, etc. Moi je voudrais aussi vous parler de deux structures vraiment au niveau étatique, en tout cas deux éléments étatiques assez forts qui vont peut-être à mon sens dans le sens du jeu comme objet culturel à part entière. Donc le premier ça concerne plutôt les jeux vidéo. Mais je pense que finalement, une acceptation du jeu vidéo comme objet culturel ne peut que déteindre sur l'acceptation du jeu de société.
Ce qui est assez étrange quand on réfléchit, quand le jeu vidéo est un média neuf, alors que le jeu de société est un média ancien.
Oui.
Ça serait une espèce de rétro-héritage, enfin c'est bizarre.
Oui, c'est intéressant, et je pense que c'est dû au fait que le jeu vidéo trouve plus ses titres de noblesse, en tout cas dans certains cadres, par l'entrée audiovisuelle.
Ouais, voilà.
Voilà, donc c'est-à-dire que notamment le CNC, donc le Centre National de la Cinématographie, donc quand même une structure qui a un certain bagage depuis un certain nombre de décennies, et le co, enfin est vraiment la structure qui porte le fonds d'aide aux jeux vidéo. C'est-à-dire que tous les ans, 3 fois par an, me semble-t-il, il y a des commissions qui sont portées par le CNC et cofinancées par le ministère des Finances, donc on est quand même sur une reconnaissance étatique de très haut niveau, qui vont accorder des crédits d'impôt forts à des projets de création de jeux vidéo innovants, pertinents, etc. Et donc c'est assez intéressant de voir que le Centre National de la Cinématographie fédère le fonds d'aide aux jeux vidéo. Et c'est assez intéressant de voir que le FAJV aussi est vraiment reconnu comme étant une structure, en tout cas un fonds véritable au niveau étatique. Et le deuxième point, c'est peut-être la reconnaissance vraiment honorifique, dirais-je, qui sont la reconnaissance au niveau des décorations. Donc là, je parle des chevaliers des arts et des lettres. Donc à ma connaissance, il n'y a pas encore d'auteurs de jeux de société ou de jeux de rôle au sens vraiment physique, ou d'escape room d'ailleurs, qui ont eu ce titre.
Il y en a certainement, mais qui ont été nommés, alors peut-être pas justement sur ces titres-là, mais qui ont été nommés indirectement parce qu'ils sont aussi créateurs de jeux vidéo ou de trucs comme ça.
Peut-être. Pas peut-être ouais, pas ma connaissance. Je pense que en fait surtout
Je ne
l'exemple.
sais pas si Maxime Chattam a été, on en parle plus tard, je ne sais pas s'il était titré pour quelque chose comme ça, en tant que l'un des plus grands auteurs français actuels, enfin contemporains.
Bah, c'est une bonne question. Est-ce que Maxime Chattam, alors pourquoi nous parles-tu de Maxime
Et
Chattam?
parce que Maxime Chattam, du coup, a révélé il y a quelques années qu'il était rôliste, donc du coup tout le monde a fait « Oh là là, il est rôliste, il est comme nous !» Et du coup, comme il y a eu un petit mini-buzz dans le milieu, il s'est dit « Bah tiens, je vais écrire des scénarios de jeux de rôle, quoi.
Ah.
» Incidemment, ça ferait que rétroactivement, il pourrait être un auteur de jeux de rôle décoré, quoi.
Eh oui, ça
Enfin, en
serait
tout
bien
cas,
ça.
reconnu culturellement en France.
Bon bah voilà, est-ce que Maxime Chattam est décoré? Ça c'est
Envoyez
notre
votre réponse au
question.
36 15 15.
C'est ça. Ou en commentaire du podcast.
Ou
Ça
encore, ce qui
marche
sera
aussi.
beaucoup mieux en fait.
Ou en fait, oui, c'est ça. Et donc, par contre, effectivement, en 2006, il y a eu des décorations des Chevaliers d'Arts et des Lettres. Donc ce sont quand même
Alors,
une belle décoration.
tout en 2006?
Oui, les trois d'un coup.
D'accord, donc il y avait peut-être un. Il y a eu un geste politique
Bah, il y a eu clairement un geste politique fort, ouais.
là.
Ouais, la même année. Donc c'était le ministre de la Culture du moment, donc qui était Renaud Donnodieu de Vabres à l'époque, qui a décerné donc cette décoration de Chevalier d'Arts et des Lettres à trois auteurs de jeux vidéo. Donc qui ne sont d'autres que Michel Ancel, Frédéric Reynal et Shigeru Miyamoto. Donc Michel Ancel qui est notamment enfin qui travaille à Ubisoft et qui est un des créateurs de Rayman et de Beyond Good and Evil. Frédéric Reynal qui est beaucoup plus connu pour son travail sur Alone in the Dark entre autres. Et enfin Shigeru Miyamoto qui est connu pour être Shigeru Miyamoto et donc avoir participé activement très activement à la création de Mario, de Zelda et être un des piliers Nintendo.
Probablement indirectement l'une des personnes les plus influentes dans le milieu,
Voilà.
de par la plus ne serait-ce que le volume des œuvres auxquelles il a participé, quoi.
Ouais, et puis même l'importance, parce que c'est vrai qu'au niveau histoire du jeu vidéo, la sortie de jeux comme Mario, c'était quand même très très fort. Et il est toujours un peu présent d'ailleurs chez Nintendo. Donc effectivement, le fait de se dire, je suis l'État et je vais reconnaître comme chevalier des arts et des lettres des créateurs de jeux, de vidéos, mais de jeux, sont quand même, je pense, une reconnaissance assez belle, assez forte, et peut-être une preuve que la notion de grand nombre, finalement, est une notion qui est peut-être un objectif qui est visé par finalement tout créateur, et toute transmission artistique a peut-être pour objectif de viser le plus grand nombre, ça c'est tout à fait discutable, mais en tout cas, dans ce cadre-là, on a une reconnaissance qui, je pense, existe.
Je pense que par rapport aux jeux vidéo, on a même encore historiquement il y a une reconnaissance de la France dans le milieu du jeu vidéo qui est supérieure, entre guillemets, à la plupart des autres pays d'Europe.
En jeu
Déjà.
vidéo, tu dis?
Et je pense que même au niveau du jeu de rôle et du jeu de plateau, on a plus d'auteurs français qu'on va avoir d'auteurs espagnols, anglo-saxons, ou allemands.
Il me semble avoir vu passer qu'effectivement, même en termes de marché, le marché du jeu de société français était le marché numéro 1 en Europe, donc devant l'Allemagne. ce qui m'a un peu étonné sur le coup, mais je pense qu'en termes de notions de pratique et de distribution et de la taille d'Asmodée notamment, c'est des choses qui sont quand même qui m'étonnent pas tant que ça. Quand on voit la place que prennent finalement de plus en plus importante que vont prendre des éditeurs bah, comme Asmodée ou d'autres dans les salons de création de jeux de société, enfin de jeux de société, donc même s'il se passe en Allemagne, Essen et Nuremberg, quand même une présence de Français est quand même assez gigantesque, quoi.
Ouais, puis il y a pas mal de. Enfin, il y a vraiment une aura, une sphère d'influence. Je sais pas si c'est dû à de gens qui sortaient d'école. Je sais que la France a été l'un des premiers pays d'Europe à vraiment avoir un pôle, par exemple, d'éducation à l'informatique, mais du genre depuis les années 70-80. Par rapport où d'autres pays d'Europe le faisaient pas encore ou le faisaient à des buts plus utilitaires, mais on a plus de créateurs qui en sont sortis. Je pense que je crois qu'il y a eu peut-être un côté aussi où t'as ce côté universitairement où ça a été plus facilement mélangé que des milieux artistiques. Peut-être dans d'autres pays où c'était purement dans des milieux techniques et scientifiques.
Peut-être, ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant, ça me fait rebondir sur un truc, c'est au niveau de l'éducation du jeu, c'est un point intéressant à un niveau institutionnel. Encore une fois, on a très peu, on n'a pas d'école vraiment de création de jeux de société à proprement parler en France. On a des formations type sur la formation science du jeu à Villetaneuse qui a une unité d'enseignement création de jeux de société, pardon. Donc salut Nico si t'entends ce podcast. Et pour le coup. Mais par contre, en revanche, il y a vraiment des écoles, vraiment au niveau licence, niveau master, de création de jeux type enfin de jeux multiples, donc des écoles de game design où on a une licence à Bobigny, une licence à Montpellier et un master à Angoulême. Et notamment pour parler de la licence à Montpellier,
Plus
elle
les
est.
nombreuses écoles privées
Oui, voilà, plus les écoles
existent.
privées. Mais là, c'est vrai que je parlais en
Là, ouais, on
termes de
parle
reconnaissance
institutionnellement,
étatique. Ouais,
effectivement,
voilà.
ouais.
Mais c'est vrai que tu fais bien de préciser que même le jeu de société est très enseigné en école privée de game design, hein, donc ça c'est très important. Mais que la licence de Montpellier, typiquement, c'est une licence qui est rattachée au département des arts plastiques. Bon, ça c'est intéressant, tu vois. Ça va un peu dans le sens quel est le rattachement du jeu vidéo? Bah c'est Montpellier 3, Paul Valéry, section arts plastiques. Voilà, donc c'est là finalement qu'on enseigne le game design au sens vidéo, société, plutôt vidéo d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas rattaché à informatique, c'est pas rattaché à audiovisuel, c'est rattaché à art plastique, ce qui est assez rigolo. Voilà, donc voilà qui conclut notre deuxième partie sur le jeu en tant qu'objet culturel.
Effectivement, on a fait un petit tour sympa. Je pense qu'on n'a pas non plus été extrêmement, on n'a pas non plus fait de grosses conclusions. Mais j'ai envie de dire, c'est parce qu'on est c'est dans un truc qui est encore en soi en évolution en ce moment même, qui est en mutation même, j'ai envie de dire.
Ben oui, clairement, c'était un podcast qu'on avait envie de faire suite à des débats internes au sein du canal Slack Proxy Jeux, sur lequel on serait bien naïf de penser qu'il y a des réponses simples, trop simplistes qui existent, et sur lequel c'est surtout l'idée de gamberger un peu, quoi. Eh bien, en attendant, donc dernier podcast prévu pour dans 2 mois, il ne nous reste plus qu'à vous dire,
Jouez
jouez
bien!
bien!